Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Deux petites mains apprivoisent le jour, effeuillent les rayons. Un petit corps pétrit, tête laissant la nuit halète. Je suis née, grain de beauté à la main gauche. Ma mère m'a torréfiée au soleil, néné. Je suis née, balle perdue dans la cuisse droite. Mon père me l'a léguée, Je suis née, mèche argentée, Efraristo Yaya. Caressée par la lune, je sais, je sais. J'ai tissé des routes, tissé, j'ajoua. Jezine, Beyrouth, Lemessos, Athéna, détissé des ponts. Du sens, là où il n'y en avait pas, j'ai compris, tissé des ponts arrière. Mère, père, sœur, frère, ami, nos vies seront peut-être des poèmes. J'ai tissé des routes, Tissé, des années, je tisse toujours et je jette un dernier regard de l'autre côté des frontières de mon enfance. Captive des mots que j'écris, je suis en trois pliés. Captive de mes lettres, des courbes, à l'intersection, toujours à l'intersection. Du Sod, du S et du Sirma, de mon prénom captive. Voici ma mosaïque. Ici, là, là-bas, mon identité dans ces quelques vers, en trois pliés captives, d'un domicile sans clé, d'un bait captive, d'un poème libre. La frontière de mon pays s'étend comme un arc sur les branches supérieures d'un grenadier planté par mon père Mohammed, arrosé par ma mère Eleni. Un proverbe dit qui te présente une grenade épluchée t'aime d'un amour plus pur que le ruisseau. Mon père ne m'a jamais dit je t'aime. Ses lèvres cousues par la guerre, il ne pouvait parler. Mais il m'épluchait des grenades. Une grenade par jour, en septembre. Et dans chacune, des centaines de grains, des aubes nouvelles. Je suis enceinte d'une frontière longue de 79 kilomètres. La taille moyenne d'un fœtus à naître est de 50 cm. De combien de mois, de combien d'années suis-je enceinte? Je ne sais plus. 1920, fécondation. Je porte dans mon ventre des générations de femmes. Je porte celle de ma mère, celle de ma grand-mère, celle de mon arrière-grand-mère Jalila. Ce sont les femmes de mon pays qui ont porté la frontière. Les fœtus font en moyenne 50 cm puis ils naissent. Ma frontière prend toute la place et elle ne naît pas. Elle se roule en boule, parfois. Elle donne des coups, parfois. Mais elle ne naît pas. Quand vais-je enfin accoucher de ma frontière? Que valent les mots? Que valent les mots d'une langue natale dans l'exil? Que valent les amandiers qui fleurissent sur une terre étrangère? Que vaut un navire égéen dans l'Atlantique? Que vaut un poème? Que vaut un poème? J'avais besoin de toi ce soir-là. J'avais besoin de toi ce soir-là, mais tu n'étais pas là. Tu cueillais des roses, tu faisais bouillir du thé, tu pétrissais du pain, tu repensais à ton village adoré. Tu buvais ton vin, tu voyais tes amis, qui ne sont pas comme moi, des exilés. Oui, j'ai de l'exil en moi. Je suis cet exil, mais vers où? Je ne sais pas. Je n'ai pas honte, j'avoue. Pour l'exil, j'avais besoin de toi ce soir-là, mais je te savais heureuse. Bien sûr que tu l'étais. Pour te protéger, j'avais dans le creux de ma poitrine rangé des siècles de violence. Et aujourd'hui, légère, comme nos maisons, laissons-nous porter par le vent. Allons chez les razels et déguster le ftar. Prenons des baraz et des marmoules. Tout juste sorti du four, allons noyer notre exil dans les baklava d'Athènes, d'Istanbul. Prenons un verre d'ouzo, d'arak, de raki. Le nom change au gré des saisons comme la lune, les marées, les floraisons. Du sou de Damas, envolons-nous à Alep, allons à Metlin, passons par Alger. Où que j'aille, les goûts me ramènent à toi. Nous pouvons, bien sûr que nous pouvons. Nos maisons sont légères, plus légères que nos cœurs. Merci.
Bonsoir. Le dernier jour du mois d'août, pourtant, j'ai l'impression qu'on a quitté l'été. Je n'ai pas écrit, peu lu. Hier, j'ai acheté des cahiers et un nouveau livre. Il faut noter, sinon, j'oublie tout. Être seul et loin, c'est n'avoir aucun problème. Est-il temps de remonter ma montre ? Une petite fille qui se penche sur la fontaine, une jupe qui vole, papa qui meurt, les journaux pendent, tenus par des pinces à linge. Depuis quelques jours, le temps est à l'orage. Des hommes de 50 ans, bien habillés, qui fouillent les poubelles, les étudiants du quartier, bronzés après les vacances, pleins d'une énergie renouvelée. Nota bene, aller au cinéma en plein air et boire une bière à la bouteille. La lune monte, Athènes brille et je rêve éveillé. Sur la colline des Muses, j'ai lu en espérant que le pire n'arrive pas. Puis j'ai rejoint des gens que je ne connaissais pas. Ils m'ont servi à manger et à boire. Ils ont parlé beaucoup et puis ils ont chanté de ces chansons populaires qui parlent d'amour et de vie chienne, comme Brassens, Vysotsky ou Déandré. Je ne connaissais pas les paroles, alors on m'a traduit un peu. Seuls ceux qui mangent le pain sale savent t'aimer. J'ai demandé, le pain sale ? Ceux qui le mangent savent bien ce que c'est. Et ils ont continué sur des champs de marins et d'exil, de militants sacrifiés. Je me suis vue à 20 ans dans ce couloir souillé où l'on entonnait des airs russes en buvant pour être ensemble et moins triste. J'en avais mal au ventre. Alors ils m'ont embarquée dans une taverne perdue. Dans la ronde électrique, jeunes et vieux dansaient sur des airs anciens. L'étau se resserrait ou s'élargissait. Vibration infime d'une sensualité venue de loin. Et je me suis dit que s'il ne nous restait plus rien, il nous faudrait danser cette mélancolie folle et la pluie de tomber sur les mandariniers. Le printemps est là aujourd'hui, mais tout est chauffé à 100, comme si nous étions encore en hiver. Chercher la femme et la brûler. Des boules de poils comme d'infimes queues de lapin et la linéarité d'un chapeau défoncé, solitaire sur un banc. Mademoiselle, vous connaissez ? L'espoir et l'enthousiasme, tragédie d'une ville qui semblait convenir, mais compagnie, périphérie, complexe à l'ardeur gâchée. Moi, emmurée, figée de ne savoir t'attendre. Peut-être listée, reprendre par le commencement, comptabilisée pour apprendre. Je ne sais plus parler, ni anglais, ni français. Aller-retour détonnant entre altérités multiples, mais la douleur, bientôt, il faut le croire, en fuite. Et ensemble, alors, à Sinaren. J'ai grimpé et dévalé 1000 collines aujourd'hui, des villas arborées de psyricots, au cyprès éternel du cimetière de Metz. À Sinamo, avec tes rues en pente, tes horizons bouchés, tes garagistes endormis, tes cafés en attente, tes spectacles de fin d'année qui retentissent dans les cours d'école, tes télés qui s'étouffent dans des sous-sols engloutis, tes silences stagnants et tes avenues encombrées. Ton ciel gris-jaune, signe des chaleurs d'orage, tes trottoirs défigurés, tes poubelles oubliées. Partout, tes acacias, tes pins et ton odeur de résine. Et Imitos, en fond, solide. J'ai grimpé et dévalé 1000 collines aujourd'hui, et accrochait un regard qui souriait en biais, des mouches collées sur les jupes de gardes impuissants, avant de retrouver mon cimetière bien-aimé. Là, entre le coucou envolé et les voitures au loin, les cigales, pour la première fois cette année. Pardonne-moi, Athéna, si douce, si belle. Toi et tes rues me rappellent parfois la Crimée. Gourzouf, Coctebel, Yevpatoria, que deviennent-elles ? Et toi, chérie, Vagne, Vagnechke chère, je me rappelle tes champs de blé. J'ai grimpé et défalé 1000 collines aujourd'hui, car demain je te quitte. Mais je me réjouis de te retrouver à Sinaren, vide et délaissée, au cœur statique de l'été. Lorsqu'un drap tient trop chaud, que l'air, trop épais, bute contre les persiennes, que les fenêtres ouvertes ont l'air bêtes, des choses immobiles, que les nuits pèsent de questions mille fois retournées et que le ronflement du voisin s'invite, marais d'insomnie. Voilà. C'est fini. On souhaite que l'amour soit et dure. En ce mois de novembre qui ressemble tout entier à un mois de mai, les larmes plein le cœur et au fond, il faut le dire, la colère d'Achille. Un jour l'écrire, dire ses empires et ses fêlures, ses épithètes homériques. Des nuits à boire plus que de raison, pourtant sans enivrement, mais danser, euphémisme mal trouvé, tristement sec. Et moi qui fonds, les poumons en masse gluante dans ma cage thoracique. Voilà, voilà, tu dis. Il fallait bien qu'on le dise, le temps d'une soirée sur les marches de Dexamini. Le dire pour ne pas le vivre. Prendre ses marques pour ne pas les retrouver. Et l'acropole, infaillible, toujours là, ancrée.
Je vous vois pas, mais bonsoir.
Des origines. Enfant, une sensation, une cicatrice inexpliquée que les autres n'ont pas. Un peu douleur, un peu fierté. En grandissant, la conscience se précise et avec elle, le déchirement. Un camailleux si lent que si tu te rappelles son avancée, tu ne peux pas situer son commencement. L'écartèlement, voilà. Les bouts sont dispersés, enfouis ou emportés. Ils l'ont été depuis la première heure. Il te fallait la certitude que rien ne se résout plus tard pour que la conscience terrasse. Ces drôles de liens. Le père appelait la famille par le nom du pays. Tous les 3-4 mois, la Grèce téléphonait. Loin de m'imaginer, je décrochais. M'arrivait une affection d'aîné, sans visage, apeurante. Mes oreilles en brûlaient de gêne. Vite, j'allais trouver mon père en chuchotant un nom, un lien, lui refourguais le combiné. Au premier mot en grec, lui venait cette voix cuivrée de quand il parlait fort, croyant couvrir l'éloignement. Chatouillé par l'agacement, la jalousie, je retournais vaquer, laissant mon père hurler avec la Grèce, lui, à ses instants étrangers, ou moi. Bâtarde. Il me faut, en plus des ignares, affronter les intentionnés du bien, qui s'attribuent le droit d'inventer les reflets, dont l'inculture assigne les parentés, jusqu'à ce que le lacis des réalités vienne les agacer. Et il y a les racines, mais piquantes, intrusives. Souffrez l'infirme, l'inapproprié, qui sait à peine s'exprimer, qui vient si peu, toujours trop tard. Souffrez-la, sans rancœur, sans pitié. Et de grâce, vous tous, ne prenez plus la peine de me raconter mon histoire. De toutes parts, un, il y a cette origine que mon nom dit, son intenable intensité parfois. De chaque départ, elle est le centre de gravité, une fournaise autour de laquelle j'évolue. Et aujourd'hui, voilà que la Méditerranée me revient. Les Syriens, comme les Grecs, disent non en haussant les sourcils ou d'un coup de menton. C'est doux, je ne les connais pas, ils me sont déjà familiers, ne veulent rien me remontrer. Et n'attendant rien d'eux, je peux me réchauffer sans craindre d'être consumé. Deux. Nouveaux, les uns aux autres, eux, Syriens, Irakiens, mes étudiants, et la langue étrangère, ce chemin du début, comme une seconde enfance, à ceci près que je ne veux être et ne serai ni leur mère, ni leur père. Aîné plutôt, oui, voilà, aîné. Et la salle de classe sera la maison, libre, que nos parents nous ont laissé. La danse. Les mauvais jours, tu penses, tout est écrit déjà dans tes liens aux racines, celles des terres lointaines, un puzzle défaillant, des pièces qui ne peuvent s'emboîter. Mais ce n'est pas aussi figé, non ? Ni aussi simple, ni aussi plat. Une danse plutôt, oui, voilà. Avec tes racines, tu danses, vous vous toisez, vous tournez en gestes lents. Parfois tu fuis et tu crois les avoir semées, quand elles réapparaissent, juste devant, et le mouvement reprend, Une danse épuisante, suffisamment, sans la charge d'un public indiscret, des inconnus ou non, qui en passant s'écrient « Mais pas comme ça, bah, tu devrais bien savoir pourtant !» Les importuns, voilà la poisse, qui s'immiscent, qui se massent et donnent le tempo. Le tempo, mais il n'y en a pas. Lorsque nous dansons avec nos racines, nous composons perpétuellement. Irrégulière. J'ai rêvé que je retournais en Grèce, je marchais dans Thessalonique, sans papier, sans affaires, juste une robe à fleurs. La tour blanche irradiait. Je marchais, à nouveau jeune fille, aimant de bienveillance, chaque port à l'affût. Naître. Rien d'autre que composite, agglomérat, de langues approchées, apprivoisées, puis le temps passe et rien, elles sommeillent et leurs liens avec elles. Mais tout sommeille, les terres, des aïeux ou sang, peu importe vraiment, tous des membres fantômes, souffrances scintillantes, qui se révèlent par intermittence. Merci.
Un grand merci à toutes les trois. Vous venez d'entendre Anna Ayanoglou, Sensation du combat. C'est les extraits de ce recueil que nous venons d'entendre. Juste avant vous, Johanna Dunis, qui a lu des extraits de Topologie, Contes d'Athènes, aux éditions du Castor Astral. Et enfin, nous avons commencé avec Sophia Karampali-Farat, avec Zaatar, publié aux éditions Bruno Doucet. Des univers à la fois, vous l'avez entendu, très différents, des musicalités très différentes, mais vous êtes toutes trois reliées par un point commun, un fil rouge, un fil bleu, j'ai envie de dire, la Grèce, que l'on retrouve dans chacun de vos recueils. Et j'aimerais que, avant d'en parler plus avant, qu'on fasse un petit peu connaissance avec vous et voir quel est le lien que chacune d'entre vous a tissé justement avec ses origines. Vous parliez de composer avec ses racines, comment on danse avec ses racines, comment on compose. Chacune d'entre vous a une histoire particulière avec ce pays et très différente. Et je vais commencer par vous, Sophia Karampali-Farat. Comme le dévoile d'ailleurs votre nom, vous avez une double origine, vous êtes gréco-libanaise, vous êtes née au sud Liban. Ceci est votre premier recueil de poèmes et vous êtes gréco-libanaise, mais le français est votre territoire d'adoption, votre territoire poétique. Pourquoi d'ailleurs avoir choisi d'exprimer votre poésie par la langue française, même si on l'a entendu tout à l'heure, le grec et l'arabe viennent s'immiscer dans le texte?
Bonsoir et merci beaucoup Marie-Madeleine pour la présentation. Merci d'être ici ce soir avec nous pour cette soirée. Effectivement, en fait, lors de la publication de mon premier recueil, j'ai fait le choix de prendre aussi le nom de ma mère, qui n'est pas mon nom officiellement, c'est mon nom de plume. C'était une promesse que j'avais faite à ma grand-mère, qui s'appelait Sophia aussi, et je voulais un jour voir figurer son nom également dans le recueil, parce que je considérais que c'était beaucoup plus égalitaire de mettre les deux noms à côté de mon prénom. Pour l'équilibre que ça a représenté dans mon parcours. J'ai grandi dans un foyer où le grec était la première langue. Donc ma mère n'avait pas encore appris l'arabe. Mon père avait déjà un peu vécu avec elle en Grèce, donc mon père est libanais. Donc la première langue qu'ils ont partagée, c'était le grec. Donc moi, quand je suis née, il y avait le grec à la maison, c'était ma langue maternelle. Puis est venu l'arabe, petit à petit. Et progressivement, deux langues cohabitaient à la maison, donc le grec et l'arabe, donc au sud Liban. Et vient le moment où on m'inscrit à l'école, dans une école française, donc le lycée franco-libanais du sud, de Nabatieh. Et là, en fait, il y a tout un monde qui s'ouvre à moi, et c'est un monde en français. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe dans ma petite tête d'enfant, mais c'est comme si j'avais associé un petit territoire de l'intime. Je commençais à associer le français à mon petit territoire de l'intime, là où le grec, c'était plus le territoire de ma mère, et l'arabe, c'était plus le territoire de mon père. Chacun son alphabet. Moi, j'avais ce petit territoire-là. Et comme j'étais une enfant assez solitaire, qui passait son temps sous les arbres et dans les livres, donc finalement sous les feuilles et dans les feuilles, J'ai trouvé dans le français un compagnon. Dans les premiers mots en français, ce compagnon-là. Et je me suis mise à écrire.
C'est presque une ruse. Vous n'avez pas à choisir entre le grec et l'arabe. Vous vous êtes échappée dans le français et vous avez réussi du coup à marier vos deux racines au cœur d'une autre, d'une tierce langue.
On compose, comme le dit très justement Anna.
Alors, on va y revenir et on va parler évidemment du recueil, mais je me tourne vers vous, Johanna Dunis. Donc, Topologie, Conte d'Athènes, on l'a entendu, c'est une promenade parfois lente, parfois effrénée dans les rues d'Athènes. Vous avez passé quelques années, vous avez vécu dans différents pays, vous avez vécu à Moscou, vous avez vécu à Londres, vous vivez en France aujourd'hui, vous écrivez en français. Quel est votre lien avec la Grèce ?
Alors justement, on parlait des racines que Anna et Sophia partagent quand même intimement avec la Grèce. Alors moi, je n'ai aucune racine du tout avec la Grèce. C'est-à-dire qu'aucun de mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents ne vient de Grèce. La Grèce n'a jamais fait partie de mon paysage mental, de mon imaginaire. Je n'en parle pas la langue, je la parle un peu... Je la comprends mieux maintenant, mais je ne la parlais pas du tout. Et avant de partir en Grèce, je n'avais... aucun référent grec du tout, à part des idées d'île et de la mer, mais bon, c'était quand même assez limité. Et c'est suite à un voyage professionnel que j'ai été même presque forcée à aller en Grèce. Vraiment, je n'avais pas du tout envie d'aller en Grèce. Je n'avais pas d'intérêt pour cette zone-là.
Ça devient vexant.
Non, mais parce que le monde est grand et large. Et effectivement, je tente d'en saisir une petite partie. Et pour essayer de plonger un peu, parfois, il faut du temps. Donc, on ne peut pas aller... partout et saisir tous les endroits. Bref, j'avais finalement accepté d'aller là-bas et puis là, quelque chose s'est joué effectivement comme une sorte de monde intime qui m'a été révélé à moi-même, hein, mais vraiment sur le tard, j'avais déjà, 35 ans. Et un peu sur un coup de tête, il faut le dire, j'ai décidé de partir m'installer à Athènes.
J'ai oublié de préciser que vous êtes autrice de documentaires, parce que vous disiez que vous y étiez allée pour des raisons professionnelles. J'imagine que c'est dans ce cadre-là. Et il me semblait important de le noter, parce que le regard de la documentariste doit aussi jouer un petit peu dans votre rapport au territoire et à la langue aussi.
Alors, je pense qu'effectivement, ça joue. Je suis aussi autrice de guide de voyage. Hein, voilà. Et puis voilà, moi j'ai effectivement grandi à Londres, donc j'ai passé toute mon enfance et toute mon adolescence à Londres, puis mon jeune âge adulte. Je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans pour mes études. J'ai effectivement vécu à Moscou, j'ai réalisé un documentaire aussi. Donc voilà, tout l'espace, ce qu'on appelait l'espace post-soviétique, j'y ai passé quand même pas mal de temps. Et donc oui, je pense que l'observation, la sensibilité au territoire, aux langues, à l'altérité, c'est quelque chose qui me constitue depuis que mes parents ont décidé de quitter la France et d'aller ailleurs, et que j'ai cultivé, entretenu. Et je pense que finalement, quand je suis arrivée à Athènes et en Grèce pour la première fois, c'est ouvert tout d'un coup un possible que je n'avais pas envisagé, qui m'a un peu tombé dessus, mais que j'ai décidé de suivre et qui a donné cette espèce de déambulation, effectivement, qui peut être frénétique dans l'enthousiasme de la découverte, ralentie par le déracinement et d'autres choses plus compliquées qui ont surgi au fil de ces années grecques. Mais voilà, cette espèce de boulimie de territoire et de grécité qui ne venait pas du tout, pour le coup, d'un quelconque rapport aux racines ou à la langue, d'ailleurs.
Mais d'ailleurs, Topologie, c'est votre premier recueil de poèmes, ce qui veut dire, d'une certaine façon, que c'est la Grèce qui déclenche chez vous la parole poétique.
Alors, encore pour rebondir sur ce que tu disais, Sophia, je pense qu'on est parfois... empêtré par des choses dont on hérite, des constructions dont on hérite aussi, et qu'il faut s'en extraire pour se libérer, et la parole et l'écriture poétique et la libération de l'écriture. Moi, j'écrivais depuis longtemps, mais dans le documentaire, dans l'écriture de voyage, donc des choses qui restent assez formellement cadrées. Et je pense que j'ai eu besoin effectivement de m'extraire, de créer mon petit monde à moi dans ce monde qui était vierge pour moi et d'une langue qui effectivement ne me parlait pas. Et venant du documentaire, j'ai tendance par défaut à écouter le récit des gens et à recueillir le récit des gens. Et là, en me fermant cette porte-là volontairement, j'ai dû écouter mon petit récit à moi. Et finalement, c'est là où effectivement la langue poétique a pu tout d'un coup surgir, encore une fois, alors qu'elle n'était pas présente a priori dans mes possibles. Voilà.
Anna Ayanoglou, il s'agit de votre deuxième recueil de poèmes que nous avons entendu, Sensation du combat, publié aux éditions Gallimard. Le précédent s'intitulait Le fil des traversées, vous l'avez publié en 2020, il y en a un autre à paraître bientôt. Presque la même question dans le lien évidemment avec la Grèce. Vous évoquiez tout à l'heure de manière extrêmement imagée la voix de la Grèce qui se fait forte par le téléphone, qui donnait presque la sensation que la Grèce venait vous attraper là où vous étiez à distance. Quelle est la relation que vous entretenez avec ce pays ?
Mais je pense qu'elle m'attrapait parce qu'elle restait assez tue. Parce que donc mon père qui était grec avait une relation très complexe, je pense aussi complexe avec sa famille qu'avec le pays. Du coup, enfin, c'était un
ça va ensemble.
Oui, voilà. Et du coup, donc il ne nous a pas parlé à mon frère et à moi en grec. On s'est un peu débrouillé chacun de notre côté pour voilà apprendre l'alphabet, etc. Apprendre à déchiffrer. On a fait quelques cours. Mais du coup, pendant longtemps, c'était pas un interdit, mais c'était une inconnue complète, quoi. Et du temps où mon père acceptait encore de recevoir ses tantes à la maison, c'était aussi ces vieilles bonnes femmes ridées, là, quand on revient de l'école, et puis il y en a deux dans la cuisine qui vous palpent. C'est quoi ? C'était pas dégoûtant, mais c'était pas vraiment.
Oui. Vous étiez allé bisous mouillé, c'est pas toujours ce qu'on préfère quand on est enfant.
Ben surtout de gens qu'on n'a jamais vus, qui vous causent d'une langue que vous ne comprenez pas. Et donc, il y avait cet inconnu qui attire aussi. Quoi. Et donc, dans l'écriture, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, en plus, j'empiète sur ce que je lirai après, mais j'ai juste trois mots, c'est qu'on est allé en Grèce jusqu'à ce que j'ai 4 ans. Et puis, mon père s'est définitivement fâché avec sa famille. Et lui, n'y est pas retourné jusqu'à sa mort. Et moi, j'y suis retournée à 17 ans avec ma mère qui écrivait des guides de voyage. Et donc, elle m'a pris dans ses valises. Et là, ça a été un voyage vraiment, pour moi, inaugural. On était en Grèce du Nord en février. Enfin, c'était quelque chose. C'était si loin, justement, des îles et des images un peu clichés qu'on a. Et c'était si incarné que. Dès que j'ai commencé vraiment à écrire sérieusement vers 25 ans, je me suis dit un jour, il y aura la place pour ça dans un livre, quoi. Et donc voilà, il a fallu que ce soit j'attende le troisième livre qui va sortir dans un mois, qui s'appelle Appartenir, où je retrace un peu tout ça.
Est-ce que vous avez associé, un peu comme Johanna, le langage poétique à votre rapport à la Grèce ou pas du tout ?
Non. Mais le langage poétique, enfin, à l'origine. C'est marrant parce que nos visions de la poésie changent avec l'âge. Et donc quand j'avais 23, 24, j'étais là, mais la poésie, c'est évidemment chanter le monde. Pourtant, j'avais pas du tout une culture classique. Enfin voilà, ma culture, c'est des petits bouts que j'ai pris à gauche et à droite. Mais j'avais cette idée que, évidemment, je ne vais pas écrire un poème sur quelque chose de désagréable. Voilà, le désagréable, il faut le taire. Et puis en vieillissant, la poésie, c'est pas que le chant, c'est l'exploration. Et donc là, je suis vraiment dans ce mouvement-là, vraiment de.
Souterrain.
Un peu souterrain, oui, oui.
Vous vivez à Bruxelles, vous avez une émission radio où vous parlez justement de poésie. Quel est le rapport que vous entretenez justement à la poésie au point de vouloir manifestement le transmettre, en parler au plus grand nombre? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans l'expression de votre identité?
De mon identité, c'est une grave et grande question. Je ne sais pas si je pourrais y répondre là, mais en tout cas, ce qui m'a porté vers la radio et vers ce désir de donner à entendre. En fait, je ne parle pas de poésie, je donne à entendre la poésie. C'était vraiment l'idée de ne pas être dans le commentaire, mais de donner que du brut, quoi.
Et donc ça s'appelle « Et la poésie alors ?» Et en effet, « Et la poésie alors ?» Et donc ce sont des poèmes en langue originale, en entier. Alors ils ne sont pas trop longs, parce que sinon on perdrait les auditeurs. Et en traduction française. Et donc là, il y a vraiment, pour moi, la... Enfin, c'est une platitude effarante, mais l'amour de la poésie va avec l'amour de la langue, vraiment. Et là, en fait, j'ai aussi redécouvert, moi, enfin, découvert des choses qui étaient que... Enfin, une place encore plus forte accordée au rythme et à la musicalité, ça paraît bête, mais je trouve quand on lit de la poésie contemporaine, parfois on a l'impression que c'est passé à la trappe. Et parce que quand on écoute de la poésie en langue étrangère, dans une langue étrangère qu'on ne comprend pas, ben, le rythme et la musicalité, c'est les premières choses qu'on va percevoir, en fait. Et on va même projeter des choses sur ce qu'on entend. Et puis, quand on aura la traduction, c'est un peu un test de Rorschach, quoi. Je ne sais pas si je le dis bien, d'ailleurs, c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire.
Mais cette question de la poésie en langue originale m'interpelle. Je me tourne vers vous, Sophia, parce que on a vu tout à l'heure, je le disais, vous avez ressenti le besoin de mettre aussi des mots en grec, des mots en arabe, comme si, justement, la langue originale des émotions, de quelque chose de vécu, ne pouvait pas, justement, être remplacée par quelque chose de traduit. Et voilà, je trouvais intéressant de s'interroger sur le rôle de la langue originale et de la langue originelle. De la même manière que, Johanna, vous n'êtes pas grecque, ça n'est pas votre langue, mais pourtant c'est la Grèce qui induit la poésie. Dans votre cas, pourquoi cette nécessité de faire une extraction de la langue grecque et de la langue arabe à l'intérieur d'un poème en français ?
J'écris dans mes trois langues. Mais j'ai publié mon recueil en français. Je pense que c'était la première manière, peut-être la plus simple aussi pour moi, de me présenter aux autres. Je cache un peu mes poèmes grecs et arabes encore. J'écris dans mes deux autres langues. Donc ce n'est plus ma seule langue d'expression poétique. J'écris aussi bien en arabe qu'en grec dans mes petits carnets que j'illustre aussi avec des œuvres plastiques. Mais j'ai l'impression que c'est un autre territoire de l'intime et petit à petit, j'ai l'impression quand même que ça déborde dans mes poèmes. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui vont venir comme si en fait je retissais ce lien aussi avec mes pays. Avec la Grèce, ça a toujours été un peu plus compliqué parce que j'ai vécu au Liban, donc dans le sud du Liban. J'allais à l'école, j'apprenais le français. Et en fait, chaque année, avec ma famille, on attendait l'été pour aller en Grèce, donc faire les deux mois, juillet, août, chez ma yaya, dans le nord-ouest. Moi, je viens d'Épire, dans un petit village. Et en fait, ces beaux souvenirs-là aussi qui m'ont permis d'avoir ces mots qui venaient un peu comme des soleils dans mon poème, pour apporter cette lumière dans cette enfance quand même qui a été assez douloureuse. Le grec a toujours été un peu ce refuge dans lequel j'ai envie de plus en plus de pénétrer maintenant que j'ai pu dire ce que j'avais à dire aussi dans mon premier recueil. Pour moi, en fait, chaque langue a aussi ses mots qui sont assez forts dans la langue originale. Dans un des poèmes que je vous ai lu, il y a le mot bayt que j'aime beaucoup, le mot arabe bayt qui veut dire à la fois le vers du poème et à la fois la maison. Je trouve que c'est un mot sublime. Et lui, par exemple, je ne sais pas comment le traduire. Donc voilà, je l'ai intégré comme tel. Et tout à l'heure, je vous lirai un poème aussi avec quelques petits mots en grec. Mais pour moi, c'est vraiment une composition. C'est une composition. J'essaye d'écrire des poèmes aussi qui sont un peu à l'image de qui je suis. Et j'espère pouvoir un jour aussi avoir ce niveau d'intimité avec les personnes qui m'écoutent pour publier aussi mes poèmes directement en grec. Et là va se poser peut-être après la question de la traduction. Voilà, c'est des poèmes que j'aimerais moi-même traduire. Voilà.
Zaatar, c'est l'histoire de l'amour d'un pays, mais aussi d'un déchirement. Vous parlez de frontières, vous parlez d'être enceinte d'une frontière. Il y a de l'engagement aussi dans ce texte. C'est des émotions, mais c'est aussi un engagement, n'est-ce pas ?
Oui, Zaatar, c'est le thym libanais qui pousse au Liban, mais pas que. C'est un thym qui pousse dans plusieurs pays de la Méditerranée, en Syrie, en Tunisie aussi, etc. Il y a aussi l'équivalent un peu... J'ai même trouvé du za'atar à Athènes. Du coup, j'ai coupé une branche, j'ai fait une bouture et maintenant, je l'ai plantée chez ma mère à Athènes. J'étais très heureuse. C'est l'histoire d'un déchirement. C'est l'histoire de... On a eu une enfance compliquée parce qu'en 2006, nous avions vécu la guerre israélo-libanaise. On avait 11 ans et c'est à ce moment-là aussi que l'ambassade grecque nous a pris parce qu'on est ressortissants grecs. Ils nous ont accompagnés. Enfin, on est allés jusqu'au port de Beyrouth parce que l'aéroport avait été bombardé et ils nous ont mis dans les gros bateaux, les gros navires de guerre et ils nous ont ramenés en Grèce. Donc il y a vraiment cette histoire d'essayer de détisser ses routes de retracer un peu cette histoire qui est assez douloureuse, mais qui finalement se traduit par une nouvelle maison dont les pages sont plus solides que des murs et qui nous permettent d'être et d'espérer. Voilà.
Johanna, pas vraiment des mots grecs, mais quand même, on vous a entendu dire « Athénamou » et non pas « Athènes ». Pas mon Athènes, mais Athénamou. Qu'est-ce qui fait qu'au moment où on écrit un texte sur Athènes, on ressent le besoin de le dire dans la langue originelle?
Je pense que, comme disait Anna, il y a une question de musicalité de la langue. Moi, le grec, au départ, j'avais une sensation de... Je n'arrivais pas à reconnaître la langue. Et souvent, quand je tendais l'oreille, bon, à Athènes, évidemment, elle était partout, mais quand je rentrais en France, par exemple, et que j'entendais parler grec, je reconnaissais quelque chose, mais je n'arrivais pas à reconnaître. Et il y avait une sorte de texture, comme des petites gouttes. Et en fait, ce petit rythme-là, finalement, je pense que se retrouve tout au long de topologie. Il y a une sorte de ruisseau qui coule. Enfin, je pense que, évidemment, la mer est très présente comme élément dans topologie. Mais c'est au-delà de la mer, c'est vraiment cet élément un peu de d'écoulement qui peut être saccadé, frénétique ou qui peut être plus lent, qui finalement, je pense, me vient de cette langue dans laquelle j'ai été quand même baignée pendant toutes ces années, dont j'ai besoin, en fait, quelque part. Il y a une anecdote assez rigolote. Je suis revenue en France il y a un an, m'installer à Paris. Ça a été dur. J'étais pas très heureuse d'être ici. Et surtout, j'étais dans l'incapacité totale d'écrire quoi que ce soit. Ça faisait un petit moment que ça durait, mais ça s'est vraiment concrétisé à mon retour. Et puis un jour, je me promenais dans Paris et je sentais une petite envie. Je me suis dit, bon, peut-être tu pourrais écrire quelque chose. Mais bon, c'était assez abstrait et je tombe devant un café grec, mais qui avait vraiment l'air grec, pas le grec, voilà, vraiment.
Le design.
Voilà, les tables carrées en marbre, dedans il y avait de la bonne musique grecque, les serveurs parlaient en grec, les clients parlaient en grec.
Enfin, mais c'est où? On veut y aller.
Je me le garde. Et je me suis pris un Freddo, je me suis mise sur une petite table et là j'ai sorti un papier, j'ai commencé à écrire. Et en fait, d'être baignée dans la musicalité de cette langue, quelque part, doit faire quelque chose chez moi qui fait que j'arrive à écrire. Alors, c'est un petit peu plus compliqué maintenant que je suis à Paris, puisqu'il faut bien que je trouve les moyens d'écrire en étant ici. Alors, je pense que ça passe par d'autres langues. Mais voilà, je pense que c'est malgré tout, quand on est baigné dans une musique, elle ressort. Et dans Topologie, à l'origine, il y avait aussi du russe que j'ai effacé avant d'envoyer aux éditeurs. Je sais pas trop pourquoi je l'ai fait.
Pourquoi vous l'avez écrit en russe ou pourquoi vous l'avez effacé?
Non, pourquoi je l'ai effacé. Ouais. Je pense que j'aurais dû le laisser, à vrai dire. Mais je me suis dit, voilà, il y a quand même, quand on envoie un texte, l'appréhension et l'envie d'être compris et entendu. Et quelque part, avec cette langue-là, j'avais peut-être peur que ça passe à la trappe. Donc il y avait un peu de russe dans Topologie qui s'est évanoui et qui reviendra peut-être pas dans le prochain non plus. Mais voilà, les langues.
Mais ceci dit, ce que vous nous dites en nous révélant cette anecdote avec le russe, c'est que le langage poétique, j'ai le sentiment en vous écoutant que le langage poétique ne s'encombre pas justement de racines linguistiques, d'origines, etc., et qu'il s'impose dans la langue dans laquelle il a envie de s'imposer. Comme si, à partir du moment où on est porteuse de plusieurs langues, on ne sait jamais d'où va surgir, de quelle langue, de quelle racine va surgir la poésie. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça ?
Oui, et là, par exemple, sur le prochain recueil sur lequel je travaille, il y a beaucoup de textes, pas beaucoup, mais il y a certains textes fondamentaux qui sont en anglais, donc j'ai grandi en Angleterre, une langue dans laquelle j'écrivais pas spécialement, bien que la première fois que j'ai écrit un vrai poème, j'étais à Athènes et c'était en anglais, mais bon. Et donc là, ces textes fondamentaux qui vont rythmer le texte seront en anglais. Et j'en parlais à mon éditeur qui me disait « Peut-être tu devrais les traduire toi-même. » Donc toi, tu veux traduire tes propres textes. Moi, je suis incapable de faire ça. Et surtout, je n'ai pas envie. Je pense que des langues existent telles qu'elles existent et que parfois, il ne faut pas les toucher exactement dans comme ce que tu fais avec l'émission radio. Je pense qu'il faut... Il faut savoir être perdu dans une langue, ne pas saisir spécifiquement le sens, mais s'imbiber de musique, de rythme et d'émotions. Il y a plein d'émotions et de sens qui passent, même sans connaître la grammaire et les mots.
Anna, vous êtes d'accord avec Johanna ?
Ah oui, tout à fait. Mais je pense qu'on n'a pas cette prévention quand on écoute de la musique. Enfin, moi, j'ai adoré les Beatles à partir de 8 ans. Je ne pétais pas un mot d'anglais. Et j'ai découvert à 30 ans ce que ça voulait dire, quoi. Et donc, pourquoi on ne se permettrait pas ? C'est un peu ce que je fais dans l'émission. C'est-à-dire, parfois, je mets une musique assez douce ou bien un fond sonore en fond du poème en langue étrangère parce que ça permet de baisser les défenses. Quoi. On a ce truc un peu « je dois tout comprendre, je dois tout capter ». Mais non, en fait, il y a aussi moyen de se laisser porter. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'on va faire ça toute notre vie, mais il y a cette... voilà, ce n'est pas que intellect, un poème. Et donc
Non.
Oui, ça vous énerve.
Bah, c'est-à-dire que oui, franchement.
Non, mais alors justement, vous écoutez plutôt que de dire que la poésie est le fruit de l'intellect, peut-être que c'est plus organique que ce qu'on imagine.
C'est-à-dire que le côté poésie-intellect, c'est quand même quelque chose de très français, par exemple, parce que pour cette émission. J'ai commencé à lire énormément de poésie étrangère. Bon, j'adorais depuis mes 20 ans, là, que j'ai découvert dans la grosse anthologie poésie irlandaise chez Verdier. Je n'ai aucune part chez Verdier, mais je vous la conseille. J'adorais la poésie irlandaise parce que dans la poésie irlandaise, il y a ce... Mais il n'y a pas tout... Enfin, nous, on est quand même très cloisonnés, quoi. La poésie, c'est ça, la prose, c'est ça. Bon, ça, c'est en train de... Les verrous sautent un peu, mais quand même. Et donc d'avoir... je sais pas où je vais avec ça, en fait. J'ai perdu.
Je vais vous recadrer. En fait, dans un instant, on va avoir le plaisir de vous écouter de nous lire des inédits. Chacune d'entre vous travaille ou a travaillé un ouvrage à paraître. Notamment, vous, Anna, votre prochain ouvrage, Appartenir, va paraître le 7 mars aux éditions du Castor Astral. Et justement, vous nous disiez tout à l'heure que cet ouvrage était vraiment, pour le coup, ancré dans la Grèce et dans votre rapport à la grécité, hein, comme on a dit dans le titre de cette rencontre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, justement ? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce recueil ? Quel a été l'élément déclencheur pour vous lancer sur ce territoire-là ?
Alors, ça va être très personnel, mais je pars du principe que si je l'ai écrit, je n'ai pas à avoir de pudeur à en parler. L'élément déclencheur, il est assez dur, c'est un avortement. Et c'est que... au moment, donc dans le bloc opératoire, il y avait beaucoup de personnes là, d'infirmiers, docteurs, et l'anesthésiste était grec. Et avec son bel accent, comme ça, très sainte, elle m'a dit « Alors, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé, tout ça. » Et ça a été vraiment, enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça a été évidemment un choix à faire qui n'est pas anodin du tout, mais il était rendu moins... tragique peut-être par l'humanité de ces soignants et notamment cet anesthésiste. Et il y a eu cette chose de, ben voilà, enfin, décider de faire une IVG, c'est dire non, c'est ce qui est dans un des poèmes inauguraux de ce recueil, au poids de la lignée. Et donc, alors oui, d'accord, mais moi, c'est quoi ? Et moi, mon truc, mon shtick, quoi, c'est comprendre. et explorer. Et donc, ça a vraiment initié une sorte de... J'avais déjà écrit quelques textes, mais qui n'avaient absolument pas de direction. Et donc, il y a vraiment un mouvement exploratoire de revenir à... Déjà, à ce voyage inaugural dont je vais lire deux poèmes, là. Et aussi, comprendre la figure du père et la figure et à quel point il a été très, enfin toute sa vie presque adulte, doublement étranger, à la fois grec en France et la famille de ma mère c'est des Vendéens, un grec c'est comme un Égyptien, c'est comme, enfin je compte pas le nombre de pays où on lui a dit ah mais oui vous venez de, pas du tout, donc enfin c'était déjà il y a 30 ans, ça a sans doute changé aujourd'hui, je suis méchante, mais donc il y avait ce double, voilà, cette étrangeté là, et le fait aussi d'être, il a une santé très très mauvaise avec beaucoup de problèmes de, voilà, qui l'ont amené à être hospitalisé très très régulièrement, et un compagnonnage avec la maladie, et donc d'être aussi l'étranger parmi les saints. Et voilà, et à un moment, enfin je sais pas comment vous fonctionnez, mais il y a toujours moi un moment où je me lance dans un recueil, il est encore un peu globuleux, c'est pas du tout le mot.
Un peu flou, évanescent.
Oui, comme dans l'espace, quoi. Oui. Et puis il y a un moment où ça se forme, et donc il va loin. Mais je suis assez contente parce que quand les gens me demandent, je dis ouais, ça commence par mon avortement, ça finit par la mort de mon père. Mais par ailleurs. C'est là où je suis allée le plus loin dans la mosaïque des tons aussi, c'est-à-dire parfois c'est drôle, parfois, enfin voilà, je me suis aussi, et je pense que c'est très très dur d'écrire un poème drôle, et pour le coup les Irlandais pour ça sont incroyables, nous on est nulle part quoi, voilà.
On va, comme je le disais, écouter les inédits. On avait imaginé qu'on en parlerait après, mais je pense que finalement, il vaut mieux qu'on en parle avant et qu'on finisse sur vos textes, parce que c'est un vrai plaisir de vous écouter lire. Johanna, dites-nous un petit peu, vous allez nous lire donc un texte inédit. J'aimerais savoir d'abord, puisque vous évoquez la nécessité d'entendre la langue grecque pour recommencer à écrire, est-ce que c'est ce qui s'est passé avec le texte que vous allez nous lire ?
Alors le recueil en écriture qui est prévu pour l'année prochaine si j'y arrive, j'ai commencé à l'écrire quand j'habitais encore à Athènes. Et puis il a pris une autre forme un peu plus tard, où je n'étais plus vraiment à Athènes. Mais le texte en question que je vais vous lire, donc c'est un texte, est écrit quand j'étais, je vivais encore à Athènes, et est un peu, disons, la prolongation de Topologie, donc mon premier recueil. Mon deuxième recueil, qui pour l'instant s'appelle Les Grottes, va aller explorer, excaver... toutes sortes de noirceurs. J'espère y trouver du rire. Pour l'instant, je n'ai pas encore trop trouvé, mais ça viendra. Et donc, on quitte effectivement un peu Athènes pour plonger ailleurs. Mais je pense que ce qui reste, en tout cas d'Athènes, c'est, et ce que raconte le texte que je vais vous lire, c'est la colère. Parce qu'on va aller chercher la colère pour tenter de l'apaiser, et la lutte pour essayer de tenir face à une sorte de folie du monde. Voilà.
Sophia, vous aussi, vous allez nous lire, je crois, deux textes inédits, dont je crois que l'un, vous m'avez dit que vous l'avez écrit tout à l'heure.
Oui.
Est-ce que vous voulez en dire quelques mots ?
Oui, en fait, il y en a un que j'ai écrit juste avant de venir, donc ça va être vraiment une intimité partagée avec vous ce soir. En fait, juste, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire exister Yaya Sophia ce soir, ici à la Maison de la Poésie. Donc ma grand-mère qui est partie en juillet. Donc j'ai quand même eu la chance de voir sa photo en selfie avec mon recueil. Donc je suis tellement heureuse par rapport à ça. Donc je lui ai écrit un petit poème comme ça pour faire porter quelques mots. Et l'autre poème que j'avais écrit, c'était... C'était il y a un an déjà, et c'était en Grèce, Donc les deux poèmes sont plus reliés à la Grèce pour le coup. Et c'était un poème que j'avais écrit lors du premier été où en fait je me suis sentie soulagée aussi par rapport à la situation géopolitique où je sentais que ça allait mieux par rapport à la région, ce qui est définitivement moins le cas aujourd'hui où la région est encore plus plongée et où tout à l'heure il y a eu là où il y avait mon école qui a été bombardée là juste avant de venir. Donc c'est assez fou parce que j'ai quand même voulu voir au-delà de la violence et la Grèce me fait souvent ça. Donc voilà, les deux poèmes que je vais vous lire, c'est plus doux, c'est plus tendre.
Eh bien, je vous invite à rejoindre le micro.
On m'avait dit que cet été serait différent, qu'il serait doux, qu'il se dégusterait comme une île à la petite cuillère. Moi, je ne savais pas, je croyais que tous les étés avaient le même goût, celui des contrôles aux frontières, des alphabets pliés dans la valise. Mais on m'avait dit que cet été serait différent, qu'il serait doux. Pourquoi pas, après tout? Les exilés ont aussi le droit à l'été. Alors j'ai fait ma valise encore une fois, j'ai plié mes mots encore une fois, je suis partie encore une fois. Partir. Chaque lettre du mot partir est une saison dans mon cœur. Mais on m'avait dit que cet été serait différent, qu'il serait doux. Alors je suis partie, différemment, doucement. Paix la rose, aller démonter les mers, vague par vague, semer des îles, briser les frontières, jouer avec l'exil, dissoudre la géographie sur ma langue, faire fondre l'été. J'ai glissé ta géographie sous ma peau. Tes contours, tes villages, Cuculla, Zumerca, Platanos, et le chant des cigales, ta tzitzika de l'après-midi. J'ai glissé ta géographie sous ma peau là où les étés font encore la sieste sous l'ombre des figuiers. Là où toi, Yaya Sophia, suivi de tes quatre brebis, de tes cinq soleils, soulève aube et montagne, s'amuse avec les entrailles du temps. Tu vois, tes contours, tes villages, tes montagnes, tes figuiers, tes aubes, tes étés, les voici, les lettres de mon nouvel alphabet. Et je t'écris. Je t'écris, toi qui portes l'exil aux couleurs de la mer, toi qui as la frontière joliment tracée sur les paupières. Je t'écris, mère nourricière, femme courage aux cinq soleils. Je t'écris, toi qui t'amuses avec la géographie, toi qui pousses la porte de la langue et qui entres lentement dans le poème.
Johanna Dunis.
L'autre jour, la fièvre, en plein calme de soleil, ils étaient réunis pour contrer la présence policière, militaire, dans les amphisanctuaires. Oh, oh, vous n'aurez pas nos universités, mais les jeunes encasqués se fichent bien des menaces. Vous verrez, attendez voir, bientôt les matraques. Alors, criez maintenant, fourmis contre cigales. Depuis des jours, la fièvre des hélicoptères, insectes surplombant leur bzz-bzz incessant comme un moustique dans une oreille. Dans les tréfonds de la ville, les sirènes hurlantes pour un rien, un passage, un étudiant peut-être. Tandis que l'autre, au téton indécent, exposé en pleine lumière sanitaire. De les voir souriants, harnachés, fringants, de loin m'est sortie la haine. J'ai marché plus droite, les yeux à travers sans voir. Si je pouvais taper, mon Dieu, que j'aimerais, taper fort, leur hurler, qu'ils sont moches avec leur carapace d'insectes, qu'ils ont peur avec leur sourire en coin, que nous sommes meilleurs qu'eux, un peu, peut-être. Et alors que je n'avais pas prévu d'en être, la rumeur des slogans est montée. De l'arrière comme une vague et en poussée, j'ai voulu chanter ces mots dont on avait perdu l'espoir. Un jour, oui, peut-être, dans une vague venue de loin, du fond, elle sera libre, elle sera libre, elle sera libre. Et finie l'humiliation. Merci.
Anna Yanoglou.
Regarde. Ni retrouvailles, ni visites. À 17 ans, je vais au pays de mon père. Dernière fois, j'avais 4 ans. Je revois sous le lit moutons et peignes blancs un jour de sieste où je n'ai pas dormi. Avec cette mémoire primitive, les récits familiaux sont un pont de cordage au-dessus du ravin. Ni retrouvailles, ni visites. Je veux voir ce qu'il y a au fond. L'irruption. Avec la nuit, la plaine s'était retirée, tableau noir pour les rêves sur le siège passager. Avec la nuit, la neige, les premiers faubourgs, et avant qu'on ait pu s'aiguiser, sur le front de mer, une avenue nous happait, une langue anthracite transpercée de lumière, rouge bavé des feux arrière, réverbère, casque blanc des motards, même les poules parées pour la nuit luisaient entre nos phares, tous affairés, chacun en place dans le chaos, chacun sauf nous. Juste née à la ville, tu te guidais à l'imminence du conflit. J'étais la copilote la plus inopérante. Mais quoi ? Comment se détacher ? De gauche à droite, les barres, la mer, gouffre, pétrole, au loin la montagne, ses poings muets. Soudain, l'entaille d'un vrombissement, lesté de basse, derrière et devant nous déjà, une jaguar noire vinyle s'imposait un chemin. Sur la vitre, l'inscription « Black Demon ». À l'arrière, aigle noir à deux têtes sur fond sang. Et dans les vapeurs de ton épouvante, mon rire fou. Mais quoi ? Comment le réfréner ? Thessalonique m'avait ravi et recraché. Succession. Comment j'en suis venue à comprendre cela ? Mon père, l'orphelin de mère à la naissance, de père adolescent, s'est toujours senti entre les tantes, les cousins, la grand-mère, surnuméraire. Ce que ça fait à la psyché. À nulle mère, à nul père. Pressé dans le chaos suant, l'image d'un visage d'enfant debout, la tête coincée par les jambes d'adulte, joues écrasées. Cette vision que j'ai retrouvée en Orient, l'enfant propriété. Oh, mais aimé, bien entouré, mais bel et bien enfant ballot. À l'injustice de l'orphelinage, celle de la maladie adulte. Toujours les vues cherchant réparation, flouées mais tenaces. Dans ces moments de chasse, après une administration, une direction, un médecin, il était pleinement. Sa ténacité, mienne. Et puis, j'ai pris de ses souffrances sans ses forces pour les combattre. S'ajoute la douleur de ce que, si entêté, si constant, ait pu être mon sacrifice. Comme j'excelle à écouter, distraire, assourdissant mes propres mots. Jamais il ne fut suffisant pour résorber sa peine. Et je demeure sans lui. Me fait défaut cet égoïsme mâle. J'ai celui de l'être créant, qui va de pair avec une méconnaissance de soi, machine aveugle vers le dehors, vers l'intérieur, machine avance, herse. Les récoltes seront pour d'autres.
Un grand, grand, grand merci à toutes les trois. Je rappelle les titres des ouvrages disponibles. Anna Ayanoglou, Sensation du combat, apparaître le 7 mars, appartenir. Johanna Dunis, Topologie, Conte d'Athènes, c'est aux éditions du Castor Astral. Sophia Karampali, Farhat Zaatar, c'est aux éditions Bruno Doucet. On va vous retrouver dans un instant dans le foyer, vous pourrez dédicacer les ouvrages que vous pouvez trouver dans la librairie juste en face. Un grand, grand merci d'avoir partagé vos territoires poétiques avec nous et merci beaucoup à vous tous d'avoir été présents ce soir.